France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin, 8h30, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Et c'est justement le président de cette fédération, le pasteur Christian Krieger, qui est mon invité ce matin à l'occasion d'un week-end fédératif assez exceptionnel qui se déroule depuis vendredi et jusqu'en milieu d'après-midi aujourd'hui au centre du Lazaret à 7. Bonjour pasteur Christian Krieger.
Bonjour.
Bienvenue dans Solae. La Fédération protestante de France, comme je le disais, se réunit ce week-end. Une assemblée générale ordinaire qui prend une forme un peu extraordinaire cette année. Racontez-nous pourquoi, comment.
En fait, nous avons travaillé, cher Jean-Luc, récemment sur le projet stratégique de la Fédération. Et dans le cadre de ce travail, on s'est aperçu qu'il y a plus de 1000 acteurs. Qui porte le projet fédératif en France. Il y a parmi ces 1000 acteurs des acteurs de terrain, des aumôniers en milieu hospitalier, carcéral, auprès de l'armée ou dans les aéroports. Et puis il y a 15 pôles de la fédération dans les bassins urbains notamment ou parfois en région. On a pratiquement 150 personnes qui travaillent dans les différentes commissions de la fédération. Elles s'occupent d'écologie, de justice climatique, des droits et de libertés religieuses, d'éthique et de société, des relations avec le judaïsme, avec l'islam et les musulmans. Et puis on a tous ces responsables d'églises, ces responsables d'associations, d'entraide, de communautés, de mouvements, membres de la fédération qui sont à l'AG et parfois même au conseil. Et donc à peu près 1000 personnes qui portent ce projet fédératif sur le terrain, dans leurs responsabilités. Il était important de leur offrir un espace et un temps pour se rencontrer de manière transversale, pour prendre un peu la mesure de l'ampleur de notre action collective et d'une certaine manière de se connaître, de se reconnaître et de prendre conscience de toute l'action de la fédération.
Alors dans ce temps, il y en aura trois plus particuliers, trois moments avec des thématiques dont vous pouvez aussi nous dire quelques mots.
Oui, en effet, nous voulons travailler sur les mutations que connaît le protestantisme français, des mutations, enfin nous vivons une période où l'histoire s'accélère, oui. Ça c'est la thèse de Hartmut Rosa, et donc le protestantisme français n'en est pas exempt, et précisément, je vous en dirai tout à l'heure deux petits mots, nous venons de mener une enquête avec l'IFOP qui nous montre un peu comment ce protestantisme évolue. Donc nous aurons un temps de réflexion sur ces mutations du protestantisme, et nous prolongerons par un temps autour de la question de la confiance. Comment vivre le changement ? Comment le vivre, le changement en confiance ? Souvent, quand nous travaillons sur ce fameux sola fide, c'est-à-dire le salut par le moyen de la foi seule, eh ben, on a une approche très, très existentielle, un peu à hauteur d'homme, à hauteur d'existence, à hauteur de personne. Très rarement, nous posons la question de la confiance de manière collective, en vie d'Église, comment on vit les changements, oui, que connaît l'Église en confiance, comment on vit l'Église qui n'est plus celle de notre enfance aujourd'hui en confiance. Et finalement, la confiance incite ou invite à vivre le présent et d'une certaine manière à être reconnaissant pour le présent qui nous est offert de vivre.
Et puis le troisième et dernier temps, donc
En fait, on voulait inviter tous ces acteurs fédératifs à, disons, à vivre une forme de décentrement, ne pas trop se focaliser que sur la manière dont je peux appréhender les changements qui me réjouissent ou m'inquiètent, ne pas juste réfléchir avec un philosophe, avec une réflexion politique ou sociopolitique, et puis avec un théologien sur la question de la confiance, mais ouvrir ce questionnement en disant mais qu'est-ce qu'on attend du protestantisme ? Et du coup, on a invité le directeur adjoint de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, pour nous dire, mais voilà, nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, voilà ce qu'on attend des protestants. On a invité le coprésident des bouddhistes qui est très engagé dans le projet Imbuna, donc cette formation interreligieuse pour cadres à Sciences Po, pour nous dire, mais du point de vue de l'interreligieux, vous, protestants, vous avez un rôle à jouer. Et on se laisse décentrer aussi par un acteur de la formation interreligieuse luxembourgeois qui a une culture allemande, qui un peu de manière internationale va nous questionner, mais vous, protestants français, voilà une place à tenir.
Ce week-end fédératif sera aussi l'occasion de dévoiler les premiers résultats, comme vous venez de l'évoquer, d'une grande enquête menée par l'IFOP autour du protestantisme français. Juste avant d'en discuter ensemble, je vous propose d'écouter quelques réponses de personnes prises au hasard dans le quartier des Halles à Paris, à qui j'ai demandé ce qu'évoquait justement le protestantisme, ou plus simplement encore, le mot protestant.
Bah, écoutez, moi honnêtement, ça me concerne pas trop.
Je sais que c'est du côté en fait de Dieu, mais je sais pas exactement.
Moi, protestantisme, le premier truc que je pense, bah du coup, c'est la religion. Et ensuite, le terme plus de manifestation en termes, je me suis fait avoir sur le bac d'ailleurs sur cette question de protestantisme.
Non, moi je connais pas trop et j'aimerais bien connaître.
Un terme que vous avez déjà entendu, protestant.
Non, jamais entendu.
Non, moi j'ai déjà entendu ça, mais en cours, pendant mes cours d'histoire. C'est une religion ?
Très protestant. Moi, je suis catholique, donc je ne connais pas trop la branche des protestants.
Waouh, ok. Donc le protestantisme, ben, c'est une religion qui vient de la base chrétienne. C'est une branche très intéressante. Vous savez pourquoi ? Il n'y a pas la lourdeur de la... prier en latin au secours, quoi. Il faut vivre avec son époque, quoi. Ils sont beaucoup plus modernes et plus adaptés à leur époque. Ils sont beaucoup plus pragmatiques, en fait. Voilà, c'est les anglo-saxons, en fait.
C'est une religion, non ?
Chrétienne, ouais. C'est plus laxiste que les catholiques, non ? Moi, je trouve laxiste. Le catholique, c'est plus dur. Je trouve.
C'est une branche du christianisme, hein. Pas particulièrement croyant, mais oui, je connais le protestantisme, ouais. Assez intègre, plus sobre que les cathos, je pense. J'ai vécu longtemps en Afrique, il y a beaucoup de protestants en Afrique. Je connais l'évangélisme au Brésil et c'est pas génial parce que c'est une machine afrique et une grosse arnaque pour le peuple.
Bah, le protestantisme, c'est une partie des catholiques qui sont allés vers le... vers un nouveau mouvement. Bah, c'est un peu moins strict.
Vaguement, ce sont des gens très rudes, sans fioritures, mais très droits. Mon époux était protestant, parce que ce sont des gens plus ouverts que les catholiques, voilà, je trouve.
Pour moi, c'est un passage dans l'histoire, pendant lequel une certaine religion était au-dessus des autres. Mais je sais qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les catholiques en général.
Je sais qu'il y en a beaucoup en Alsace, mais autrement, voilà, c'est tout ce que je sais.
Ah bah pour moi, c'est une voie de la chrétienté, parallèle au catholicisme. Je crois que c'est dans l'essence de Jésus, non ? Et la Vierge, en fait, je crois que oui, l'essence de Jésus n'est pas forcément un acte miraculeux.
Je connais à peu près l'année à partir de laquelle la religion protestante est arrivée, hein, avec la réforme, avec surtout l'impression de la Bible et l'autorisation donnée aux gens de découvrir eux-mêmes les textes sacrés, ce qui n'était pas le cas avant. Par rapport à un catholique, c'est probablement plus de liberté. Mais d'un autre côté, le protestantisme est aussi perçu comme la religion qui a favorisé le capitalisme.
C'est les chrétiens, les protestants. Les catholiques, leurs prêtres, ils ne se marient pas. Les pasteurs, ils ont des femmes, c'est ça, pour moi.
Une
femme.
C'est une branche du christianisme. Il me semble qu'elle est née en Angleterre. Je sais pas trop.
En tout cas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça fait rentrer en conflit obligatoirement dès qu'on va commencer à débattre d'un point de vue, que ce soit politique ou religieux. Et moi, c'est pas du tout mon idée, quoi. Moi, mon idée, c'est qu'on est qu'un. À partir de ce moment-là, on peut tous s'aimer les uns les autres et ça sert à rien d'aller chercher plus loin.
Je crois qu'il contestait, je sais pas s'il contestait Marie ou Jésus, il y avait quelque chose comme ça, mais par contre, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de mise en avant.
Peut-être besoin de mise en avant, on s'en rend compte à l'écoute de ces réponses prises dans la rue, comme ça, au hasard. Il y a du travail quand même pour faire connaître le protestantisme, Christian Krieger.
Et oui, c'est une des mission de la Fédération protestante de France que de faire connaître le protestantisme. Et c'est un peu pour cette raison que on s'est dit qu'il fallait refaire un sondage sur les protestants en France. Ouais. Le dernier sondage, la dernière enquête d'envergure date de 2010, hein, donc fait 15 ans. Et il nous fallait à un moment donné reprendre langue avec un institut de sondage. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la Fondation du protestantisme et la Fondation Flamme qui nous ont soutenus et qui nous permettent de faire cette enquête. Pour finalement questionner, mais combien y a-t-il de protestants en France? Comment évoluent les différentes familles, les différentes sensibilités? Comment évoluent leurs pratiques, leurs croyances, leurs engagements, leurs opinions?
Alors, j'imagine que tout ça va s'analyser, ça va prendre un peu de temps pour tout ça, mais peut-être que déjà des choses ressortent, des premiers résultats?
Effectivement, il nous faudra un certain temps pour analyser parce qu'IFOP nous a livré 240 pages de chiffres.
Ah oui.
Mais la première chose qu'on peut peut-être souligner, trois ou quatre premiers enseignements. Premièrement, le taux de protestants dans la société française, la population française est stable. C'est assez surprenant parce que finalement on est dans un processus de sécularisation et d'une certaine manière de déchristianisation, d'effritement de l'appartenance religieuse. Et ben curieusement, le protestantisme est stable. Il demeure à 2% de la population française se disent protestants. Et si l'on prend en considération que depuis 2010, la population française a connu une certaine croissance, on peut même dire que le protestantisme progresse en nombre. Et dans cette évolution, il y a une autre composante qui devient significative. On a pratiquement 25% de personnes qui se disent protestantes et qui ne fréquentent pas le culte, jamais.
Oui. Plus culturel donc.
Voilà. Ou 33% qui se disent protestantes et qui ne lisent jamais la Bible. Ouais. Et donc émerge, alors dans le temps on parlait du protestantisme sociologique, je crois qu'il y a vraiment un protestantisme culturel, c'est-à-dire des gens qui se disent de culture protestante, mais qui ne vivent pas le protestantisme comme une démarche de foi, une démarche ecclésiale, se nourrissent de l'écriture, fréquentent le culte pour être interpellés par l'interprétation de la Bible.
Alors voilà, ce sont quelques éléments déjà, il y en aura beaucoup d'autres, et la Fédération communique autour de tout cela.
Peut-être un troisième, si je peux en prendre
oui,
un.
Bien sûr.
On pointe de manière significative l'émergence dans ce qu'on pourrait appeler une pratique religieuse 2.0 ou une église 2.0. Et on sent bien que
Internet.
La pandémie a fonctionné un peu comme un accélérateur, mais 28% en fait de protestants aujourd'hui fréquentent le culte régulièrement, occasionnellement en ligne.
Et oui.
Et donc il y a une réelle émergence aussi d'une église ou d'une pratique religieuse digitale ou numérique.
Plus ou moins traditionnellement, la Fédération protestante choisit aussi un verset de la Bible chaque année qui accompagne ses vœux et donne une certaine dynamique à l'année qui s'ouvre. Je l'avais déjà évoqué le premier dimanche de 2025 dans cette émission. Cette année, tel un mot d'ordre, c'est persévérer dans l'amour fraternel. Pourquoi ce choix, Christian Krieger, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset, cette façon de dire les choses?
Alors en fait, nous choisissons toujours ce verset pour avoir une parole qui dépasse la famille protestante, quand bien même finalement les protestants vont le lire, le méditer au long de l'année. C'est aussi un verset qu'on cherche à dire à la société française. Et un des constats qui a présidé à ce choix, c'est finalement le constat que nous vivons dans une société très très polarisée. Les sujets qui nous divisent sont nombreux. Il suffit de suivre l'actualité politique ou de regarder un tout petit peu les débats qui traversent notre société. Vous dites Gaza dans un dîner et puis vous êtes sûr que vous plombez l'ambiance. Et en fait, cette polarisation défie l'unité de notre société et finalement notre capacité à relever les défis qui se posent à la société française. On a connu deux moments d'unité l'an dernier, un autour des JO, un remarquable moment d'unité nationale, et on a connu un moment d'unité aussi au moment de l'inauguration de Notre-Dame. Mais finalement, ces moments d'unité étaient un peu des parenthèses, parenthèses en 2024. Et le réflexe centrifuge est puissant dans notre pays où nous avons une remarquable capacité à nous archipéliser. Et donc, parce que nous avons besoin de renouer avec une culture de dialogue, une capacité à débattre en s'écoutant, on a voulu travailler un peu cette thématique de la fraternité. On prête souvent aux protestants, en fait, d'être des experts en matière de débat, de culture de débat, de culture de dialogue, de savoir se tenir ensemble en assumant le dissensus. Et on avait envie, avec ce verset aussi, de dire, mais se tenir ensemble, c'est pas simple. C'est que quand on dialogue, il faut admettre d'être transformé par l'autre. Sinon, en fait, on mène un dialogue de sourds, une confrontation de postures. Et donc, on a choisi ce verset pour inviter, au sein des églises, à cultiver l'amour fraternel et plus largement, au sein de la société française, à persévérer dans la fraternité, si je prends le terme. Ouais. Et à ce titre-là, si je peux me permettre encore, je crois que la Bible est très très lucide sur cette question de la fraternité. Hein. Dès les premiers récits de fraternité, on a des récits de frérocité, de rivalité entre frères, de tromperie, de conflits, de ruptures, et même un fratricide. Et à ce propos-là, moi j'aime beaucoup la pensée d'Emmanuel Lévinas, le philosophe, qui parlait, quand il évoquait la fraternité, d'un fait originel de la fraternité. En fait, pour Lévinas, la fraternité est un lien préexistant qui relie les humains les uns entre les autres et d'une certaine manière qui les oblige ou les obligerait. Et donc, je comprends que nous ne choisissons pas la fraternité. En fait, elle nous est donnée. Et notre défi à nous réside dans notre capacité à prendre conscience de cette fraternité, à l'incarner. Un peu comme l'unité de l'Église est donnée en Jésus-Christ, qui est le seul Seigneur, et que notre défi, c'est finalement de prendre conscience de cette unité en Christ, de la reconnaître et de l'incarner.
Alors justement, lors du dîner des protestants qui s'est déroulé le 2 décembre dernier, c'est ce thème de la fraternité qui avait été retenu. Je me suis promené dans les allées de la Maison de la Mutualité avec mon micro pour interroger quelques-uns des intervenants sur cette thématique, à commencer par Xavier Moreno, qui est le président du Cercle Charles Gide, co-organisateur de ce dîner avec la Fédération protestante.
Alors, il me semble que l'actualité du besoin de fraternité dans la société française est malheureusement chaque jour confirmée par les déchaînements de violence, d'égoïsme, d'individualisme. Donc si nous l'avons choisi, c'est aussi parce que nous avions le sentiment que face à cette déferlante qui tourne le dos à la fraternité, plus que jamais, les protestants doivent s'engager pour plus de fraternité et qu'au fond, le dîner a plusieurs objectifs, celui un peu replié sur nous-mêmes, de mieux nous connaître au sein même de la famille protestante, qui est très diverse, comme vous le savez, mais celui plus généralement d'être un acteur dans la société française, portant en partie remède, pas un remède général et absolu malheureusement, au manque de fraternité. Et donc nous rejoignons l'actualité avec ce projet que le dîner, par des témoignages qui serviront en quelque sorte d'inspiration aux participants au dîner, nous soyons poussés à nous engager plus fortement, et d'autant plus fortement que, comme je vous le disais, le besoin de fraternité, aujourd'hui et chaque jour, un peu plus nécessaire.
Des personnalités protestantes ont pu intervenir, issues de secteurs très différents. Je vous propose encore d'entendre à mon micro une parole en lien avec la politique au travers des mots de Valérie Rabault, ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale et actuellement conseillère départementale du Tarn-et-Garonne, et en lien aussi avec le sport par Florian Grille, président de la Fédération française de rugby.
Alors, fraternité et politique, c'est la même chose. Parce que pour moi, la fraternité, c'est créer du lien entre les gens. Et la politique, c'est dans le fond proposer un projet de société. Et donc, quand on dit projet de société, c'est bien du lien. Comment on organise les relations dans la société? Comment on organise les relations entre le secteur privé, avec le secteur public? C'est l'essence même de la politique, d'organiser de la fraternité dans une société. Et quand une société est fracturée ou ne fonctionne pas bien, c'est que ces liens ne fonctionnent pas. La fraternité, c'est pas de l'angélisme. La fraternité, on va pas, tout le monde ne va pas être ami demain ou copain. C'est pas vrai. Mais c'est organiser des relations, et quand on est à l'échelle d'un pays, c'est organiser les relations de la France avec le reste de l'Europe, organiser aussi les relations en termes d'immigration entre les habitants. Et puis, il y a un socle commun qui doit être, dans le fond, de dire que chacun est traité avec égalité. Et ça, ça passe aussi par un accès égal à des services publics. Alors là, on fait plus de la politique, je le reconnais bien. Mais pour moi, la fraternité, c'est deux choses. C'est à la fois organiser des liens dans la société, et c'est faire en sorte que, et la liberté, et l'égalité puissent exister dans notre pays. La fraternité, c'est le lien entre les deux. C'est ce qui permet d'avoir à la fois la liberté et l'égalité dans notre société. C'est très compliqué, je ne vais pas vous mentir, mais c'est en tout cas un superbe challenge.
Alors, puisque c'est compliqué, je vais vous faire réagir sur le verset qui commence par « persévérer ». C'est peut-être là la solution, c'est ne pas s'arrêter aux difficultés, mais continuer, persévérer dans les relations fraternelles, dans la fraternité.
Exactement, mais persévérer, ça suppose d'avoir un cap, de savoir vers où on veut aller. D'ailleurs, c'est le sens un peu des Écritures, c'est de fixer toujours un cap, même si effectivement c'est pas conceptualisé avec des concepts de liberté, d'égalité, de fraternité, mais toutes les histoires qu'on peut lire dans la Bible,
bah dans le fond, elle raconte ces concepts-là de relations, alors qu'ils se passent pas toujours très bien. Hein. Il n'y a pas que des exemples qui se passent bien. Mais c'est bien, en tout cas, cette persévérance vers cet objectif de dire on tisse des relations dans la société.
Pour le coup, celui-là, il inspire beaucoup de liens avec le rugby. La fraternité protestante existe, elle se décline dans beaucoup d'associations protestantes qui interviennent sur le terrain. Je suis dans un engagement qui n'a pas de connotation religieuse du tout, mais qui par contre correspond bien à ma culture et à mon éducation. Et pour moi, les clubs de rugby sont des acteurs de lien social et de citoyenneté. J'ai tendance à dire que s'il y avait plus de rugby dans la société se porterait mieux. Et donc c'est un peu mon combat. J'essaye d'agir sur ces sujets-là et de peser pour que les clubs de rugby aient plus de moyens, qu'il y ait un meilleur maillage du territoire. Il y a 2000 clubs de rugby en France, il y a 13 000 clubs de football. Et alors que la proximité est le premier critère de la pratique, et que je considère vraiment que le rugby, j'ai cette formule, transforme pas que les essais, transforme les personnes. On a une capacité à accompagner des gamins ou des gamines en situation de surpoids, par exemple. Il y a une corrélation directe entre obésité et harcèlement scolaire. Et donc on est capable d'aider déjà à ce que des enfants se sentent bien dans leur tête par la pratique du rugby. C'est un sport où on assume la dépendance, en fait. Et donc la fraternité est un espèce d'évolution naturelle, voilà, de logique. Et au rugby, il y a un autre mot qui va bien avec la persévérance, qui est le mot de résilience. Oui, moi je crois que voilà, c'est un combat. Le rugby est un combat. La fraternité est un combat de tous les instants. Et il faut faire preuve de résilience pour être capable de mener positivement ces combats et de les réussir. Et dans les combats, il y a des échecs et il y a des victoires. Il faut beaucoup de résilience pour tenir le cap.
Président Krieger, un dernier commentaire sur la fraternité ?
Oui, j'ai bien aimé que Valérie Rabault nous rappelle qu'il y a un lien entre liberté, égalité et fraternité. Mmh. Et à ce propos-là, j'aime beaucoup la citation de Victor Hugo quand il dit « La liberté, c'est le droit, l'égalité, c'est le fait, ou c'est une utopie ». Il dit « La fraternité, c'est le devoir ». En fait, les lois peuvent créer les conditions de la liberté, garantir l'égalité. Pour la fraternité, on a besoin des citoyens. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi ce verset, pour construire ce lien des citoyens les uns avec les autres et nous encourager à sortir de cette polarité.
Un sujet brûlant qui sera au cœur des préoccupations de la Fédération protestante de France en cette année 2025 et sans doute encore après, c'est la lutte contre les violences sexuelles et spirituelles. De quelle manière ce combat est-il mené ?
Écoutez, cette lutte en fait et cette thématique est au cœur de nos préoccupations depuis l'Assemblée générale 2023 où nous avons voté une résolution sur un texte sur les violences sexuelles et spirituelles. Et il faut peut-être préciser que par violence spirituelle, on entend une violence sexuelle qui est commise par une personne en situation de responsabilité ecclésiale ou spirituelle et donc investie d'une certaine autorité. C'est une forme d'abus de pouvoir d'une personne investie d'une autorité spirituelle. Nous avons en fait préparé depuis 2023 toute une panoplie d'actions. Mmh. La première, c'est de proposer à l'Assemblée générale un référentiel d'une conduite à tenir lorsqu'une personne a investi d'une responsabilité en Église fait l'objet d'une plainte contre violence sexuelle. C'est immédiatement de la suspendre afin de protéger les victimes. Le deuxième élément, c'est que nous allons mettre en place à partir du mois de mars 2025 un numéro d'appel unique pour le protestantisme au niveau national. Ce numéro se mettra en place en partenariat avec l'association France Victimes qui, elle, avec ses professionnels, va accueillir, accompagner, conseiller les victimes, y compris les accueillir dans son réseau territorial. Et en même temps, au mois de mars, nous allons publier un guide sur les violences sexuelles. Ce guide sera publié en partenariat avec l'Alliance biblique française. Comprendre et lutter contre les violences sexuelles et les violences tout court en protestantisme. Nous continuerons à faire des formations pour les responsables ecclésiaux et même parfois au niveau interreligieux. Et enfin, nous avons un chantier en cours qui est d'écrire une charte de déontologie ecclésiale et pastorale afin de mettre en avant les bonnes pratiques. Parce que finalement aujourd'hui, à travers une loi du 10 mai 2024, l'emprise ou la suggestion psychologique et physique est devenue un délit. Et nous, protestants, nous cherchons à écrire une charte pour être exemplaires dans la lutte contre toutes ces dérives.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous sommes aussi à la fin du mois de janvier. Dans cette dernière semaine, la Fédération protestante va aussi présenter ses vœux d'une façon publique au travers d'une soirée.
Voilà, effectivement, nous, la Fédération protestante de France va organiser les vœux le 29 janvier à 18h et nous aurons comme invité Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Nul doute qu'avec le programme de lutte qu'on a contre les violences sexuelles et notre engagement régulier aussi dans le soutien à nos communautés musulmanes et juives en France, nous aurons bien des choses à partager et à formuler en cette aube de l'année 2025.
Eh bien, merci beaucoup, pasteur Christian Krieger, d'être venu ce matin dans le temps de ce week-end fédératif. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de la Fédération protestante de France, productrice aussi de cette émission Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, un lieu justement où on essaye aussi de présenter le protestantisme d'une façon plus grande, plus large et de diverses manières. En tout cas, un grand merci à vous et puis à très bientôt. Vous êtes chez vous ici, naturellement. Juste un mot encore pour vous annoncer que se déroulera la remise du prix de l'auditoire ce mardi soir, 28 janvier, au Reflet Médicis, 3 rue Champollion dans le 5e arrondissement à Paris, métro Cluny, organisé par l'Atelier Protestant. Le prix de l'auditoire distingue un film permettant de croire qu'un destin n'est jamais écrit d'avance, ce qui sera terriblement le cas cette année puisque ce prix sera remis au très beau long métrage Tatami de Guy Natif et Zahar Amir Ebrahimi, qui raconte le combat d'une judoka iranienne face aux menaces du pouvoir des Mollahs. Film porté par un magnifique noir et blanc qui sera aussi projeté à cette occasion et suivi d'un débat que j'aurai le plaisir d'animer. À ce prix s'ajoutera aussi un coup de cœur du jury et le prix du public. L'accès à cette soirée publique donc avec une réservation obligatoire à l'adresse mail prixcinemaauditoire@gmail.com. La place est au prix de 5 euros et pour plus d'informations rendez-vous sur le site internet www.latelierprotestant.com. toutaccroché.org. Et nous nous séparons avec un cantique, Christ notre roi, interprété par des membres de l'église baptiste de Nîmes, le centre Martin Luther King, et c'est un extrait de l'album Sauveur du monde.
Christ notre roi, par toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi, Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Antoine Voissa à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, ce matin à 10h dans Présence protestante, c'est la rediffusion d'un documentaire intitulé Paroles de sourds. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième émission de la série de 4 autour de l'apôtre Paul avec le pasteur Pierre Magne de la Croix. Et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun. Sur Culture, à suivre vos informations, suivies de Talmudique présenté par Marc-Alain Wachnin. Christ notre roi,